Audiolib présente Dans le murmure des feuilles qui dansent d'Agnès Ledig. Lue par Jessica Monceau. Nathanaël, je te devais enfin ce livre. Pour ton courage et puis ta joie. Honorer ta force de vivre, celle que tu laisses derrière toi. Crois-tu que l'eau du fleuve et les arbres des bois, s'ils n'avaient rien à dire, élèveraient la voix? Prends-tu le vent des mers pour un joueur de flûte? Crois-tu que l'océan, qui se gonfle et qui lutte, serait content d'ouvrir sa gueule jour et nuit, pour souffler dans le vide une vapeur de bruit, et qu'il voudrait rugir sous l'ouragan qui vole, si son rugissement n'était une parole? Non, tout est une voix et tout est un parfum. Tout dit dans l'infini quelque chose à quelqu'un. Une pensée emplit le tumulte superbe. Dieu n'a pas fait un bruit sans y mêler le verbe. Tout, comme toi, gémit ou chante comme moi. Tout parle. Et maintenant, homme, sais-tu pourquoi tout parle? Écoute bien. C'est que vent, onde, flamme, arbre, roseau, rocher, tout vit. Tout est plein d'âme. Victor Hugo. Ce que dit la bouche d'ombre. Les Contemplations, 1856. Prologue. Il était né avec l'âme d'un arbre. L'homme qui veillait sur lui en avait la certitude depuis leur toute première promenade en forêt, alors qu'il était encore minuscule. À peine un mois et quelques journées. Le soleil se faufilait entre les branches. L'air était doux et le vent léger. Il s'était allongé dans les feuillages et avait posé le nourrisson emmitouflé sur son ventre, le visage vers le ciel. Tous deux regardaient les feuilles danser au-dessus d'eux. Le bébé, de ses grands yeux ronds et bleu foncé, se nourrit du spectacle près d'une heure durant. Et s'il n'avait fallu rentrer pour rassurer la mère, le grand aurait pu prolonger ce savoureux partage longtemps encore. À l'observer d'un regard qui, portant loin, dédouble la réalité, il a vu en ce petit comme un mélange de sève et de sang, d'écorce et de peau, de tronc et de torse, de nœuds et d'yeux, de feuilles et de mèches. Ce premier contact au pied d'un chêne deux fois centenaire fut un des plus beaux moments de la vie du jeune homme. Spectateur ému de cet échange silencieux, comme si l'arbre et l'enfant s'étaient parlé. Peut-être s'étaient-ils reconnus, ou retrouvés. Les années suivantes ne firent que confirmer l'attachement de l'enfant à la nature, et plus particulièrement au chêne. De jour, de nuit, à l'ombre de la canicule ou dans le froid polaire, dans le brouillard ou sous la pluie, à l'aube ou au crépuscule, ils arpentaient longuement les sentiers et rentraient chaque jour plus riches de quelques trouvailles et secrets levés à propos du sous-bois qui leur délivrait ses mystères. Ils revenaient surtout plus paisibles. Mais un jour, la tempête s'abattit sur la forêt. Et les deux garçons y étaient. Chapitre 1. La surprise d'une lettre. Mercredi 2 février. Bureau du procureur de Strasbourg. La greffière entre dans la pièce d'un pas déterminé, les lèvres pincées, le menton en avant et le dos cambré pour se donner un semblant de contenance, ce qui lui manque cruellement face à l'homme. Dans sa main, le courrier du jour dont elle consent à se séparer dans un coûteux effort. « Une admiratrice, monsieur le procureur », lui lance-t-elle en lui tendant l'enveloppe. « Qu'est-ce qui vous fait dire cela, Jocelyne ?» L'écriture est féminine. L'adresse au verso le confirme. Une certaine Anaëlle. Tout cela avec la précision. Courrier personnel, souligné d'un trait à la règle et surligné d'un fluorescent jaune. Vous faut-il d'autres arguments? Vous semblez contrarié.
Pas du tout, répond-elle d'un ton sec en tournant les talons.
J'aurais pu croire, commande-t-il en élevant la voix pour que la femme l'entende alors qu'elle a déjà atteint le bout du couloir.